Avec le mouvement anarchiste, enfin les mouvements libertaires.
D'abord faut plus de gouvernement, puis faut plus non plus de république, plus de sénat et plus de parlement.
Et d'un cœur fraternel, nous réaliserons l'idéal libertaire.
Car moi, je veux...
C'est que vous, partout, vous alliez le faire gagner. Parce que c'est notre projet!
Vive la révolution!
Le proton se rebiffe. Vous écoutez Radio Libertaire 89.4, la radio de la Fédération anarchiste, sans Dieu, ni maître, ni publicité. Bonsoir. Ce soir, nous commençons par le livre de Kara New Daggett. Daggett, ça s'écrit D-A-G-E-T, qui s'appelle Pétro-masculinité et qui est sorti à la maison d'édition Wild Project. Cet excellent livre péchu est un livre parfois un petit peu difficile ou agaçant à lire parce qu'il est plein du jargon intersectionnel, mais ça ne l'empêche pas d'être un livre dont la pensée est vive, alerte, pointue et extrêmement éclairante. J'en veux pour preuve le début, voici sa première phrase, page 19. Pour les systèmes énergétiques fossiles et ceux qui en tirent profit, le réchauffement climatique pose le problème suivant. Ne pas exhumer les combustibles fossiles impliquerait de ne pas exhumer des milliers de milliards de dollars. De vastes réseaux de privilèges soutenus par l'économie fossile seraient ainsi mis en péril. Et Clara New Daggett de continuer page 20. Le déni climatique est évidemment au service des intérêts du capitalisme fossile. Toutefois, le charbon et le pétrole ne font pas qu'assurer des profits et des modes de vie massivement énergivores. Si les populations tiennent si fermement aux combustibles fossiles, jusqu'au point de s'engager dans l'autoritarisme, c'est que ces énergies confortent aussi des significations culturelles et des subjectivités politiques. Depuis le nouvel impérialisme du XIXe siècle, les combustibles fossiles sont devenus le fondement métaphorique, matériel et socio-technique des pétrocultures occidentales qui se déploient sur toute la planète. Autrement dit, les nouveaux mouvements autoritaires en Occident comptent sur les énergies fossiles, car elles génèrent des profits et des modes de vie consuméristes, mais aussi car les subjectivités privilégiées, là bien entendu Kara New Daggett veut dire les subjectivités, les personnalités des gens privilégiés, mais aussi car les subjectivités privilégiées sont aujourd'hui imprégnées de pétrole et de charbon. Il n'est pas fortuit que les hommes blancs, états-uniens et conservateurs, quelle que soit leur classe, figurent parmi les négationnistes climatiques les plus véhéments et parmi les plus grands défenseurs des combustibles fossiles en Occident. À travers le concept de pétro-masculinité, je souligne la relation à la fois technique et affective, idéologique et matérielle, entre les combustibles fossiles et l'ordre patriarcal blanc. Alors que misogynie et déni climatique sont souvent traités comme des dimensions distinctes au sein des nouveaux mouvements autoritaires, s'intéresser à la pétro-masculinité permet de montrer leur constitution mutuelle, où l'anxiété de genre et l'anxiété climatique se glissent l'une dans l'autre et où, parfois, la violence misogyne explose en violence fossile. Une lecture féministe des systèmes fossiles révèle l'émergence d'une convergence particulière entre le changement climatique, le système fossile menacé et l'hypermasculinité occidentale en voie de fragilisation. Pour Parenti, une convergence n'implique pas seulement que plusieurs désastres arrivent simultanément en s'additionnant les uns aux autres, mais que les problèmes s'aggravent et s'amplifient les uns les autres, les uns se manifestant à travers les autres. Analyser la pétro-masculinité nous met en garde contre ces moments périlleux où les critiques des systèmes fossiles et plus largement des modes de vie imprégnés de combustibles fossiles sont interprétées comme des critiques du régime patriarcal blanc. Tout comme les systèmes fossiles, la pétro-masculinité a sans doute une dimension mondiale. Mais tout comme les autres masculinités, elle doit être saisie à travers les dimensions multiples et localement spécifiques par lesquelles elle se manifeste. Ce chapitre se concentre sur son apparition la plus saillante et récente au sein des nouveaux mouvements autoritaires aux États-Unis. Le cas des États-Unis est instructif, car la richesse, la forte consommation énergétique et le militarisme américain font de la politique climatique de ce pays un enjeu crucial pour la sécurité planétaire. Là, je souhaiterais revenir sur ce que vient d'écrire Clara Daggett, avec en particulier cette notion d'anxiété de genre. L'anxiété de genre est un phénomène absolument international en ce moment, pour la bonne et simple raison que le féminisme lui-même et ses avancées sont un phénomène tout aussi planétaire. Et qu'est-ce que l'on constate depuis, on va dire une trentaine d'années, mais très très fortement depuis une dizaine d'années, une résurgence internationale de ce que Clara Daggett appelle les mouvements autoritaires, qu'on peut aussi tout simplement appeler l'extrême droite ou les mouvements réactionnaires. Or, un point commun de tous les discours, de tous ces mouvements réactionnaires ou d'extrême droite, qu'il s'agisse de Modi en Inde, de Geert Wilders aux Pays-Bas, de Le Pen, Bardella et compagnie en France, de Trump aux États-Unis, un point commun, c'est la haine du féministe, des féministes, du féminisme, le mépris des femmes et l'affirmation névrotique, pathologique, d'une hyper-masculinité. Et là-dessus, le livre de Clara Daggett est absolument réjouissant et très 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 éclairant sur les liens entre masculinité et énergie fossile, d'où ce titre « Pétro-masculinité ». Alors je reviens à lire son texte à partir de la page 30. Les masculinités sont toujours multiples et mettent en jeu des luttes permanentes quant à la version de l'identité masculine qui deviendra socialement dominante. La pétro-masculinité s'appuie sur certains aspects de la masculinité hégémonique traditionnelle, mais en même temps, son apparition dans l'extrême droite états-unienne contemporaine est mieux comprise comme une sorte d'hyper-masculinité. C'est une posture plus réactionnaire qui survient lorsque les agents de la masculinité hégémonique se sentent menacés ou affaiblis et donc obligés d'amplifier, d'exagérer ou encore d'altérer leur masculinité traditionnelle. Là, je reprends la parole en soulignant que c'est un phénomène bien connu dans l'histoire des religions. Quand une religion est attaquée, elle devient intensément plus agressive et plus irrationnelle. L'exemple en étant par exemple le catholicisme français au XIXe siècle, ou aujourd'hui, au XXIe siècle, l'islamisme. L'islam est maintenant tout d'un coup très menacé par l'avancée de la modernité et surtout par la montée du féminisme, et réagit de manière prodigieusement exagérée. J'en reviens maintenant au texte de Clara Newdaghet, page 31. Si la pétromasculinité est réactionnaire, c'est en partie car elle n'est pas la seule identité masculine hégémonique existant dans les États-Unis désindustrialisés. Elle n'est peut-être même pas la plus dominante du point de vue de l'expérience genrée des systèmes énergétiques ou électriques. L'écomodernisme, alors là, je traduis juste quelque chose, l'écomodernisme est un mot qui est relativement clair quand on sait bien de quoi il s'agit. On va dire qu'en français, on va souvent parler plutôt de technosolutionnisme, c'est-à-dire de ces gens qui croient que les problèmes écologiques, qu'ils admettent comme plus ou moins réels, souvent en niant leur intensité ou leur profondeur, eh bien, ils pensent que ces problèmes écologiques pourront être résolus par des solutions technologiques. D'où ce nom d'écomodernisme. Je reviens au texte de Clara Newdaghet. L'écomodernisme, par exemple, est devenu une tendance environnementale majeure, dans laquelle on peut identifier certains traits masculinistes et qui emporte une adhésion particulière chez les hommes les plus favorisés, par exemple Elon Musk.
Yourself, sonny boy. You better watch yourself, sonny boy. Everybody laughing at you, they going out enjoying. Better watch yourself, sonny boy. For joy, you better stop drinking that wine, sonny boy. Whiskey, it'll be best for you.
You drink whiskey, it'll be best for you. If you drink that old wine, it's going to kill you. You better stop drinking wine, sonny boy.
C'était le grand bluesman Lightning Hopkins. Vous êtes toujours sur Radio Libertaire 89.4, la radio de la Fédération anarchiste, sans Dieu, sans maître et sans publicité. C'est toujours le Proton sur Rebif. Et nous continuons à parler du livre de Kara New Daggett, Pétro-masculinité. Je continue la lecture de la page 31. Loin des limites à la croissance, pressenties dans les années 1970 qui recommandaient une diminution de la consommation énergétique, les écomodernistes affirment qu'il n'y a aucun conflit entre la croissance économique et les problèmes environnementaux, et que les solutions technologiques, souvent privées et mercantiles, résoudront toute difficulté. Croyance qui continue de prévaloir dans la plupart des cultures d'entreprise occidentales. Non seulement la croissance n'est alors pas un problème, mais elle est la solution, la base même de l'innovation et de l'entrepreneuriat, élément indispensable à l'ajustement de notre trajectoire. Selon Martin Hultman, l'écomodernisme a accompagné un revirement de la masculinité hégémonique en Occident qu'il retrace à travers les rôles successifs joué par Arnold Schwarzenegger, qui est devenu une figure mondialement influente de l'écomodernisme. Les masculinités plus anciennes, alignées sur l'industrialisme et incarnées par Schwarzenegger lorsqu'il était un jeune culturiste macho, ont été écartées au profit de la masculinité hybride du gouverneur Schwarzenegger de Californie, champion écomoderniste des batteries électriques et des humeurs verts. L'écomodernisme a nourri un nouveau style de masculinité dans lequel la ténacité, la détermination et la dureté s'accompagnent, selon les circonstances, de quelques zestes de soin et de compassion. Toutefois, de même que Sherilyn McGregor critique la masculinisation de la sécurité climatique, Hultman soutient que l'écomodernisme et les masculinités de la Silicon Valley qui s'y alignent souvent sont asymétriques dans leur manière de classer ces valeurs. Le soin et la compassion restent subordonnés à la technorationalité, à la ténacité et à la croissance économique. À l'inverse des masculinités écomodernistes, la pétro-masculinité dédaigne tout vernis d'hybridité ou de soin et ne roule certainement pas avec le technoscientisme béat des Californiens. Si la masculinité écomoderniste cherche à s'adapter aux nouvelles technologies et cultures énergétiques, la pétro-masculinité, en tant que posture réactionnaire, vise à défendre le statu quo menacé et à pérenniser les pétrocultures ayant historiquement renforcé le pouvoir des hommes anglo-européens engagés dans la combustion des fossiles. Et bien que la pétro-masculinité soit bâtie sur un XXe siècle fantasmé, il n'y a rien de nostalgique dans son penchant pour les combustibles fossiles. Après tout, le passé légendaire des innocentes consommations fossiles est définitivement perdu. Dans l'économie états-unienne de l'après-guerre, les fossiles avaient fonctionné comme un moyen d'accéder au statut d'homme véritable. Si leur combustion impliquait des violences, celles-ci étaient conçues comme un regrettable effet secondaire, qu'il s'agissait d'invisibiliser aux yeux des consommateurs privilégiés. Mais, entre-temps, les énergies fossiles sont apparues comme une impasse, tant pour la planète que pour l'employabilité des classes moyennes. Dans ce contexte, leur combustion peut être amenée à fonctionner comme une activité délibérément violente, une réaffirmation du pouvoir masculin blanc sur une planète incontrôlable et perçue comme nécessitant une mise au pas toujours plus violente et autoritaire. Le rolling coal, roulé charbon, est une autre tendance récente illustrant la violence fossile exercée en tant que pouvoir masculinisé. Il consiste à modifier un camion diesel afin que son moteur soit saturé d'essence et produise d'épais panaches de fumée noire. Le charbon, qui n'est pas réellement brûlé, fonctionne comme un symbole de pouvoir industriel qui s'exprime par la pollution. Le camion devient sa propre mini-usine, jusqu'à éructer par ses cheminées, et le conducteur devient un seigneur du charbon. Le rolling coal est prisé depuis longtemps dans le monde des courses de camions diesel, mais en 2014, la pratique s'est diffusée sur les routes en guise de protestation contre l'environnementalisme, contre l'Agence de protection environnementale, EPA, puis rapidement, contre les manifestants anti-Trump. S'il est difficile d'évaluer sa fréquence, le rolling coal s'est suffisamment répandu pour que certains États, dont le New Jersey, le Maryland et le Colorado, votent des lois explicitement destinées à l'interdire. La direction sanitaire et environnementale de l'État du Colorado a ainsi mis en place une smoke school, une école de fumée, pour former les agents de police à faire appliquer cette interdiction. On compte plus de 300 000 publications sur l'un des deux principaux flux Instagram dédiés au rolling coal, où des dizaines de milliers de vidéos montrent des hommes pour la plupart, projetant des fumerolles sur les cyclistes, les manifestants et les voitures hybrides, en particulier les Prius, cette marque étant devenue un symbole du consumérisme vert, sur lesquels est pulvérisé du Priusifuge. Le genre et la race sont aussi des critères dans le choix des cibles. En fumée, les brûleuses de riz, c'est-à-dire les voitures de marque asiatique, ou les piétonnes peu méfiantes, les chaudasses, est devenue une pratique très à la mode. Un journaliste avisé a qualifié ces vidéos de porno-pollution. Ces pratiques, sont entourées de discours hyper masculins. C'est la testostérone, c'est tout, c'est la virilité, a expliqué Sean Miller au magazine Slate. Les adeptes du rolling coal expriment un plaisir du bruit, de l'odeur, de la beauté des fumées. Tout cela leur donne une sensation de pouvoir qui est directement liée aux effets violents de la fumée. Et cette relation ne me semble pas fortuite. Un homme a déclaré à Vice News que les gens pratiquaient le rolling coal par simple plaisir. Ouvrez les guillemets. Quand t'es dans ton siège à entendre et à voir la puissance du moteur, ça fait quelque chose aux gens du coin. Ça les grise. Ça arrive naturellement, mais il y a un effet de fascination. Fermez les guillemets. Le Denver Post a défini le rolling coal comme un moyen de s'amuser aux dépens des autres. Pertinente description des désirs qui animent la pétro-masculinité. Que ce soit les Proud Boys, revendiquant un chauvinisme blanc et occidental, ou les Coal Rollers, se délectant des pollutions ostentatoires, la version trumpienne de l'autoritarisme fossile est jouissive, car elle fait voler en éclats tout obstacle à l'hypocrisie libérale occidentale. Je rappelle que pour un auteur ou une auteure américaine, états-unienne, le mot libéral signifie de gauche, progressiste. Même s'il prétend parfois à l'innocence, l'autoritarisme fossile prend son pied précisément parce que la consommation de combustibles fossiles est devenue indiscutablement destructrice à l'ère du réchauffement climatique. Contrôler les combustibles fossiles et être contrôlé par eux en vient à procurer du plaisir, en tant que pratique de domination, d'être dominé. Et ce, précisément parce qu'il s'agit désormais d'un jeu de vie et de mort, d'un flirt avec l'apocalypse. La violence fossile avance à visage découvert. Elle est glorifiée. Répit salutaire face à la culpabilité, la résignation et souvent la paralysie qui saisissent par ailleurs l'Occident vis-à-vis du réchauffement climatique. Le domaine des inquiétudes s'est restreint dans une taxonomie morale simple et gratifiante, au plaisir du pater familias, seul garant du bien-être pour les membres de son foyer légitime, femme blanche, animaux de compagnie, voiture, enfant blanc, voisin blanc. Le pater familias est habilité à employer tous les outils dont il dispose, charbon, pétrole, abris survivalistes, armes, murs frontaliers, pour sécuriser son foyer contre toute altérité séditieuse. Au prisme de la pétromasculinité, le déni climatique trouve donc son sens en tant que désir et pas en tant qu'échec de la communication scientifique ou de la raison. Autrement dit, l'attachement au bien fondé des modes de vie fossiles et à toutes les hiérarchies qui dépendent des combustibles fossiles produit un désir non seulement de nier, mais de refuser le changement climatique. Refuser le changement climatique se distingue de l'attitude effective de nombreuses personnes qui se contentent de l'ignorer tout en reconnaissant par ailleurs sa réalité. La négligence peut être dangereuse, elle aussi. Mais c'est une disposition passive, souvent liée à des émotions comme la frustration, la confusion ou même la peur. Le refus, lui, est actif, fâché, il exige un combat. Dans le cas du changement climatique, le refus porte aussi à militer pour davantage d'investissements dans les pétrocultures. Le refus ne peut plus se contenter de la défense du statu quo. Il doit continuer à intensifier les systèmes fossiles jusqu'au dernier moment, et ceci, bien souvent, nécessite un recours aux politiques autoritaires.
Thank you.
Vous êtes toujours sur Radio Libertaire, 89.4, la radio de la Fédération anarchiste. Sans Dieu, sans maître et sans publicité, nous sommes toujours sur Le Proton sur Bif, où nous continuons à parler de l'excellent et très surprenant livre de Kara New Daggett, Hétéro-masculinité, paru aux éditions Wild Project. Et avant la bande musicale, je lisais donc un texte absolument stupéfiant sur quelque chose dont j'ignorais jusqu'à l'existence. C'est cette idée de rolling coal, de rouler au charbon, avec ces gens, en particulier ces conducteurs de camions, qui font exprès de modifier leur moteur pour qu'il émette des fumées noires et grasses. Et bien entendu, ces gens-là se filment quand ils font exprès d'enfumer, par exemple, des gens qui conduisent des voitures asiatiques, par exemple, des femmes sexuellement attirantes dans la rue, etc., etc. Et je regrette un tout petit peu que Kara New Daggett n'ait pas souligné ce qui est certes passablement évident, c'est le côté même visuellement phallique de la chose. Les camions américains avec leur énorme moteur en avant, avec leur grande cheminée dressée, ma foi, du point de vue des formes phalliques, c'est absolument plus qu'évident. Et puis, tout simplement, ces phallus de métal viennent très clairement éjaculer d'énormes fumées grasses qui sont tout à fait, là aussi, des transpositions évidentes du sperme. C'est stupéfiant de penser que, comme elle l'a indiqué dans le texte que je viens de lire, il y a littéralement des dizaines de milliers de vidéos d'imbéciles poussant leur moteur de ce point de vue-là pour être agressifs, désagréables et même sexuellement offensants et offensifs à l'égard de tas de gens. Ce n'est pas la fin de l'analyse excellente des liens entre masculinité et énergie fossile que nous présente Kara New Daggett dans son livre. Alors je vais reprendre la lecture de son livre, là c'est page 35. Le sentiment très répandu d'une anxiété de genre, surtout concernant la masculinité, est l'un des thèmes dont la présence est la plus constante à travers les mouvements autoritaires occidentaux. Les idéaux patriarcaux y sont proclamés de façon obsessionnelle, y compris par les sympathisantes qui s'identifient en tant que femmes. Mais sous cette obsession de l'hypermasculinité se cache une peur sous-jacente de la fragilité sociale qu'implique la masculinité, ainsi que le sentiment, très répandu, d'avoir personnellement failli à incarner cet idéal. Les crises capitalistes, comme la Grande Dépression des années 30 ou la crise financière de 2008, n'arrangent rien. Elles ne rendent que plus difficile l'accès de chacun à l'emblème essentiel de la masculinité moderne, un emploi. Dans les études sur la personnalité autoritaire, les hommes qui manifestent le plus de traits autoritaires font preuve d'une très profonde peur de la faiblesse en eux-mêmes. Pour ces hommes, la définition de la faiblesse semble étroitement liée à d'intenses peurs de non-masculinité. Pour échapper à ces peurs, ils tentent de se raffermir à travers de multiples anti-faiblesses ou défenses pseudo-masculines. La pseudo-masculinité étant là définie comme l'exagération de certains traits tels que la détermination, l'énergie, l'industrie, l'indépendance, la résolution et la volonté. L'anxiété liée au genre, ou le sentiment de faiblesse masculine, se mêle à un autre attribut fréquent de la personnalité autoritaire, le sadomasochisme. Là, je reprends la parole. Pour la xième fois, les gens qui écoutent souvent mes émissions vont se dire non, pas encore une fois, mais si, mais si, mais si. Je rappelle que j'ai écrit un livre sur le sadomasochisme, et que dans ce livre sur le sadomasochisme, qui s'intitule « Dissection du sadomasochisme organisé », disponible à l'atelier de création libertaire, je montre, absolument sans la moindre difficulté, l'extrême parenté entre sadomasochisme et des structures sociales autoritaires telles que l'Église catholique ou les religions en général, mais en particulier l'Église catholique, l'armée. Et ce sadomasochisme, je dois avouer, je ne m'attendais pas à le voir appliquer lui aussi à la pétromasculinité, mais Cara Newdegate va nous démontrer que la chose est absolument sans contestation possible. Je reprends la lecture, nous en sommes à la page 36. L'anxiété liée au genre ou le sentiment de faiblesse masculine se mêle à un autre attribut fréquent de la personnalité autoritaire, le sadomasochisme. Après tout, les démonstrations masculines de force et d'indépendance semblent entrer en contradiction avec la soumission incontestée envers un chef autoritaire. Mais, comme le souligne Eric Fromm, la soif du pouvoir n'est pas enracinée dans la puissance, mais dans la faiblesse. Elle est la tentative désespérée de gagner une force secondaire là où la force authentique est manquante. Autrement dit, le sadomasochisme reflète un désir de dominer autrui qui est suscité, mais aussi entravé par le sentiment d'impuissance du sujet. Les échecs du capitalisme fossile à entretenir le régime masculin blanc, qu'il a contribué à ériger à l'aide de salaires et de marchandises, ne font qu'exacerber un sens d'impuissance collective. Afin de manifester son pouvoir, la personnalité autoritaire, impuissante, est obligée d'incorporer sa pulsion dominatrice dans la soumission à une force externe et supérieure, que ce soit Dieu, les lois du marché, un chef militaire ou un tyran, ou encore la combustion d'énergie fossile. La notion de pétromasculinité éclaire ce type de phénomène et montre que la masculinité peut être réaffirmée à travers une obéissance au pétrole. Le pétrole lui-même illustre les pulsions contradictoires du sadisme et du masochisme qui sont à l'œuvre dans la personnalité autoritaire lorsque celle-ci est infléchie par le système fossile. Le préfixe « pétro » évoque à la fois la solidité et le flux, en grec. Il signifie le roc ou la pierre, mais dans le cas du pétrole, il est le liquide généré par la décomposition pressurisée de matière végétale et animale sur des millions d'années. Il est à la fois la mort, le fossile, et la vie, l'énergie façonnée à partir de la mort. Une compression et une fuite. En tant que solidité, pétro reflète le désir de raffermir la masculinité et d'empêcher sa dissipation. En plus de l'anxiété liée au genre et du sadomasochisme, la rigidité est un autre trait omniprésent de la personnalité autoritaire. Dans Fantasmagorie, une étude menée par Klaus Teveleit sur les Freikorps proto-nazis, la rigidité est un thème récurrent pour l'homme mâle soldat qui cherche à dresser des digues contre tous les flux. Cara Newdegate cite Klaus Teveleit. Les flux dont nous parlons ne doivent pas couler chez l'homme mâle soldat. Il va tout mettre en œuvre pour les empêcher de couler. Flux réels et imaginaires, flux de sperme et flux de désir. Ces fleuves sont fermés, mais avant tout, aucune goutte ne doit exfiltrer l'enveloppe corporelle. La moindre gouttelette de plaisir fait vaciller le système d'endiguement. Je reprends la lecture de Cara Newdegate. Le travail de Teveleit est crucial pour comprendre la pétromasculinité, car il ouvre une passerelle entre la théorie féministe et l'économie politique, entre la peur des femmes et la peur des communistes, toutes deux ayant animé les premiers nazis. S'appuyant sur Deleuze et Guattari, Teveleit associe la peur des flux éprouvés par les Freikorps aux forces de l'industrialisation. Et ici, nous pouvons commencer à pressentir comment les combustibles fossiles pourraient contribuer aux désirs autoritaires. Selon Teveleit, parallèlement à l'industrialisation qui produit une illimitation inouïe des moyens de production, mettant en circulation des flux d'argent, de biens, de travailleurs, il se déroule aussi un processus social de délimitation que l'élite capitaliste dresse contre le plaisir, afin de capter toujours plus de valeur ajoutée et afin de restreindre les nouveaux moyens d'émancipation concomitants aux nouveaux moyens de production. Les désirs transgressifs qui ne sont pas codifiés par l'argent doivent alors être empêchés de circuler, en particulier les désirs queer ou les désirs incontrôlés envers les femmes. D'après Tevelight, l'image occidentale de la femme vit d'une certaine manière dans l'eau et finit donc par représenter le flux en tant que flux et tout ce qui menace de fuir et de se dissoudre dans le moi masculin. Dans sa préface à l'édition américaine des Fantasmagories, Barbara Ehrenreich observe que les corps féminins sont les trous, les marécages, les fossés boueux capables d'engloutir et inspirent donc peut-être plus que tout autre corps, que toute autre chose, la répulsion et la peur. L'endiguement du corps et de l'État autoritaire contre les flux du désir se justifie comme nécessaire à la préservation de sa force et à l'orientation adéquate de son énergie vers des trajectoires productives. Trop de flux, trop de désir sape son énergie, la laisse fuir en affluents inutiles et marécageux, susceptibles de le ramollir et de l'efféminer. La rigidité est donc particulièrement nécessaire quand l'énergie elle-même est menacée. Cette rigidité, souvent exercée comme un endiguement du corps masculin, réapparaît partout où s'insinue l'autoritarisme. Dans The Reactionary Mind, par exemple, Corey Robin observe que les conservateurs états-uniens partagent la croyance que les États-Unis se sont ramollis depuis le New Deal, ce moment où l'État-providence a sapé l'énergie de la nation et la vigueur patriarcale. Au lieu des robustes maris et des pères inflexibles régnant sur leurs femmes et leurs enfants, c'étaient les bureaucrates zozotants et les travailleuses sociales qui avaient désormais le premier rôle. La Deuxième Guerre mondiale n'a rien arrangé. Avec tant d'hommes partis au front et de femmes travaillant dans les usines, l'érosion de l'autorité masculine s'est aggravée. Pour répondre au devenir queer et au ramollissement de l'Amérique, on s'est appliqué à la réendurcir, à rigoureusement canaliser le désir en flux hétérosexuel et monétaire et à rediriger tous les désirs excédents vers la violence. Les mouvements proto-fascistes qui, aux États-Unis, saluent la victoire de Donald Trump, associent tout autant la rigidité masculine à la violence. En tant que dirigeant proto-autoritaire, seul Trump est habilité à un certain laisser-aller dans ses habitudes. Ses fanfaronnades pseudo-masculines à propos de ses exploits sexuels et de son agressivité dans les négociations agissent comme des vecteurs qui canalisent les désirs refoulés de ses partisans. En miroir, le vice-président Mike Pence, dont les évangélistes admirent la volonté d'éviter toute rencontre prolongée en tête-à-tête avec une femme qui ne soit pas son épouse, présente une rigidité, une antisexualité si excessive qu'elles en deviennent comiques. Mais qu'en est-il des Trumpistes? Bien que des études empiriques approfondies soient nécessaires, le groupe de haine appelé The Proud Boys offre un exemple révélateur. Les Proud Boys sont un rassemblement d'hommes blancs qui est en partie lié aux émeutes fascistes de Charlottesville, Virginie, en 2017, et dont les membres entendent rétablir les rôles genrés traditionnels en, ouvrez les guillemets, vénérant la femme au foyer, fermez les guillemets. Leur programme est de renverser la honte du consumérisme et de l'impérialisme blanc. Pour valider le premier des trois niveaux d'intronisation dans le groupe, chaque membre déclare: je suis fier d'être un occidental et je refuse de demander pardon pour avoir créé le monde moderne. Le deuxième niveau engage à subir un tabassage en citant des marques de boîtes de céréales ainsi que d'arrêter la branlette, entre guillemets, c'est-à-dire s'astreindre à une seule masturbation par mois, une pratique que les Proud Boys définissent plutôt comme une religion. Comme l'explique un membre du groupe, la masturbation m'éteint, elle éteint ma masculinité. Le troisième et dernier niveau consiste à se faire tatouer Proud Boy sur le bras. Au premier abord, les serments White Power, les marques de céréales et la masturbation peuvent ressembler à des blagues d'adolescents, mais dans le contexte de l'Amérique de Trump, tout ceci est malheureusement tout à fait sérieux. En tant que rite d'initiation, ils correspondent à ce que Tevelight observe dans les pratiques corporelles des groupes proto-fascistes. Rester calme en se faisant tabasser. Limiter la masturbation, entre parenthèses, rendre le corps rigide, sont des moyens pour les Proud Boys d'augmenter leur masculinité et ainsi d'avoir plus de succès auprès des vraies femmes, lesquelles restent néanmoins, comme chez les Freikorps, des figures imaginées, hors champ, et potentiellement source d'humiliation. Derrière ces tactiques de rigidité se cache un sentiment d'échec personnel. Une frustration commune chez les hommes blancs qui ont eu des difficultés à trouver une femme au foyer disposée à devenir l'objet de leur vénération. Zoe Chase, qui s'est entretenue avec les leaders du groupe, précise que la rigidité semble fonctionner comme une inspiration pour les hommes. Elle les inciterait à sortir, parler aux femmes, les épouser, procréer, devenir d'énergiques chefs de famille états-uniens et contribuer à rétablir l'ordre naturel des choses que le féminisme a totalement détraqué. Même si de nombreux groupes d'extrême droite, y compris les Proud Boys, ne se structurent pas explicitement autour des combustibles fossiles, il est important d'envisager leur rigidité misogyne en relation aux excès de consommation fossile encouragés par les chefs qu'ils admirent. Vu par le prisme de Tevelight, le contraste entre les attouchements de Trump, la pureté patriarcale de Pence et le « no wax », pas de masturbation, des Proud Boys, est moins contradictoire qu'il n'en a l'air. Seul Trump est habilité à se répandre entre ses femmes mannequins et ses liaisons supposées avec des stars du porno. Il vit les fantasmes de ses partisans. Mais le déversement par procuration d'une vigueur patriarcale frustrée à travers les prouesses sexuelles du chef autoritaire n'est pas la seule méthode pour réorienter le désir. Comme le montre Tevelight, plus les désirs productifs de chacun sont fermement endigués, plus forte est l'envie de voir ces flux se déverser ailleurs de façon violente et explosive, que les flux destructeurs remplacent les flux producteurs. Et trop. Dur et mou à la fois. Consolidation de la masculinité toxique d'une part, flux sales et mortifères, pétrole, gaz d'autre part, se déploient comme des compensations psychologiques à l'autodiscipline. Comme la cruauté des Freikorps, ou comme l'ardeur à torturer les détenus après le 11 septembre, analysé par Robin, brûler des combustibles fossiles à l'ère du réchauffement climatique peut tenir lieu de pratiques violentes compensatoires. Les systèmes fossiles laissent le champ libre à cet explosif laissé aller et à tous les plaisirs qui vont avec. Camions diesel, forage, excavation, fracking, exploitation jusqu'au sommet des montagnes. Pour le dire comme Sarah Palin, drill, baby, drill. Alors je traduis au cas où vous ne sauriez pas ce que signifie le mot drill. To drill, eh bien c'est percer. C'est percer avec une perceuse, c'est percer avec une foreuse. C'est ce que font les compagnies pétrolières qui forent, par exemple, l'Alaska. Je rappelle que Sarah Palin était gouverneur de l'Alaska et que quand les écologistes réclamaient qu'on interdise tout nouveau forage pétrolier en Alaska, elle a répondu par ce slogan « Drill, baby, drill » à la connotation sexuelle et patriarcale plus qu'évidente. Je reprends la lecture du livre de Kara Newt-Hackett. Ce constat est facilité par l'esthétique des combustibles fossiles, en particulier du pétrole, qui se trouve aisément recodé en pouvoir sexualisé et en jouissance orgasmique. Les analogies entre viol et extractivisme sont déjà bien documentées. Stéphanie Le Ménager évoque Les associations primales du pétrole avec le corps de la Terre et donc avec la perméabilité, la profusion et la multiplicité de tous les corps, de sorte que le spectacle du pétrole jaillissant de la Terre dénote une origine divine ou satanique, comme s'il était une offrande et possédait une valeur intrinsèque, dissociée de toute relation sociale. Dans le roman « Pétrole » d'Upton Sinclair, le ménager observe aussi comment un puits jaillissant devient une femme jouissante, « there she came », tandis que pour le narrateur âgé de 13 ans, la pollution et la dilapidation à échelle industrielle se traduisent en excitation et en éjaculation précoce. Et là, je dois dire que les éditeurs ont trouvé une illustration absolument savoureuse pour la couverture du livre de Karan Yonagat Petro, Masculinité, où l'on voit deux ouvriers de plateforme pétrolière, deux ouvriers très évidemment masculins, et qui essayent de, on ne sait pas s'ils viennent juste d'ouvrir ou s'ils essayent de refermer, un puits de pétrole avec un jaillissement extrêmement vertical, donc un jaillissement complètement phallique, à l'évidence une espèce de d'éjaculation, à ceci près que le pétrole c'est noir, même si le sperme c'est blanc, mais le pétrole c'est tout aussi gras que le sperme, et on note, c'est décidément un choix d'image absolument vraiment amusant, les deux ouvriers mâles ont les vêtements qui leur collent à la peau, parce que bah, tout ce pétrole les a complètement mouillés de partout, et si on admet cette équation pétrole-sperme, il y en a quelque chose dont Karan Yonagat ne parle pas dans le livre, mais qui, moi, me semble particulièrement évidente, qui est que, comme on le sait, très souvent, tous ces gens d'extrême droite, tous ces gens amoureux de la rigidité, et qui ont une peur extrêmement claire de ne pas être suffisamment des hommes, très souvent, cette peur vient de désirs homosexuels combattu et refoulé. Et là, ces deux ouvriers, ma foi, à nouveau, si on accepte cette équivalence entre pétrole et sperme, ils sont là absolument couverts du sperme, d'une espèce de père, de superman extraordinaire, puisqu'on voit que le jet du puits de pétrole doit faire, oula, il doit faire quasiment 40 cm de diamètre, allez, même soit 50 ou 60 cm de diamètre, et on a donc là ces deux ouvriers en admirateurs ou en amants homosexuels, dont on ne sait trop quel papa pétrolier géant. Voilà, c'était la présentation de ce livre de Karan Yonagat. Alors, vous notez que là, je n'ai même pas dépassé la page 40. Je ne saurais trop vous recommander la lecture de ce livre. Nous étions Le Proton sur Bif, vous êtes toujours sur Radio Libertaire 89.4, la radio de la Fédération anarchiste sans Dieu, sans maître et sans publicité. Le Proton sur Bif. Vous écoutez Radio Libertaire 89.4, la radio de la Fédération anarchiste, sans Dieu, ni maître, ni publicité. We'll be right back.
rêvé en catimini. Mais tout est là. Et j'ignore l'art perdu du secret. Oui, tout est là. Rien n'est caché. Tu m'inventes des tunnels. Des passages dérobés. Des confidents virtuels. Des délits. Mais tout est là. Et j'ignore l'art perdu du secret. Rien n'est caché. Rien n'est caché. Rien n'est caché. Rien n'est caché. Rien n'est caché.
Raconter Kissinger, l'histoire d'un de mes amis. Son nom ne te dira rien, il était chanteur au Chili. Ça se passait dans un grand stade, on avait amené une table. Mon ami qui s'appelait Jara fut amené tout près de là. On lui fit mettre la main gauche sur la table et un officier, d'un seul coup avec une hache, les doigts de la gauche à trancher. D'un autre coup, il sectionna les doigts de la dextre et Jara, tomba tout son sang giclé, 6000 prisonniers criaient. L'officier déposa la hache, il s'appelait peut-être Kissinger. Il piétina Victor Jara, chante dit-il, tu es moins fier. Levant ses mains vides des doigts qui pinçaient hier la guitare, Jara se releva doucement, faisant plaisir au commandant. Il entonna l'hymne de l'unité populaire, repris par les 6000 voix des prisonniers de cet enfer. Une rafale de mitraillettes abattit alors mon ami. Celui qui a pointé son arme s'appelait peut-être Kissinger. Cette histoire que j'ai racontée, Kissinger ne se passait pas en 42, mais hier, en septembre 73.
L-A-E dans la T-I-T-I-A. L-A-E dans la T-I-T-I-A. Sur ma Remington portative, j'ai écrit ton nom, Laetitia. L-A-E dans la T-I-T-I-A. Laetitia, les jours qui se suivent, hélas, ne se ressemblent pas. L-A-E dans la T-I-T-I-A. C'est ma douleur que je cultive en frappant ces huit lettres-là. L-A-E dans la T-I-T-I-A. C'est une fleur bien maladive, je la touche du bout des doigts. L-A-E dans la T-I-T-I-A. S'il faut aller à la dérive, je veux bien y aller pour toi. L-A-E dans la T-I-T-I-A. Ma raison en définitive se perd dans ces huit lettres-là. L-A-E dans la T-I-T-I-A. Sur ma Remington portative, j'ai écrit ton nom, Laetitia. L-A-E dans la T-I-T-I-A. L-A-E dans la T-I-T-I-A.
Vous êtes là, êtes-vous là, Grand Guy, Jacques-Henri Tompolin, Julien Lamouche et Petit Lou, frangin que l'absence traverse. Dans quel verre faut-il que je verse le vent que vous ne boirez plus? Conte de génie, figue de poire, j'entre ici pour ne plus y boire et j'y suis la seule main qui tremble. Il y a des jours au bar des fantômes, crochu par crochu, les atomes continuent de mentir ensemble. Êtes-vous là? Vous êtes là. Dans vos guenilles de gala, le smoking de vos 35 heures, pauvre bistrot, bel opéra. Je reviens suspendre mes bras à vos coups de merle, mon cœur. Je reviens de vieilles migrants stringués contre vos transparences, à l'auberge des feux follets, au milieu des tous en écho. Les ombres écrasent leurs mégots dans les cacahuètes salées. Le loufia avale une mouche et l'accordéoniste aveugle écoute le doigt sur la touche. Le Big Bang avant le grand bug. Êtes-vous là? Vous êtes là? L'électrocardiogramme plat du flipper de vos derniers scores résonne encore chiffre pile, où le temps a vidé vos piles, où le sang a quitté vos corps. Êtes-vous là? Vous êtes là? Henri, que la haine étoile, un petit matin de Valdiv, Chardonnon, du métro Charogne, chevaliers à la triste trogne et des amitiés maladies. La patronne a fait une touche, et l'accordéoniste aveugle écoute le doigt sur la touche. Le Big Bang avant le grand bug. Vous êtes êtes-là, êtes-vous là? Coquilles d'horizon chocolat, aux rires taillés à la gauche, restez fontaines invisibles, torse têtu comme les cibles, César des comptoirs, pomme rouge. Vous êtes là, c'est le son de vos haleines et du glaçon qui se consument dans vos bocs, et celui des pleurs venus choir sur les carreaux de vos mouchoirs. Les injures qui s'entrent, le métro ferme sa bouche, puis l'accordéoniste aveugle écoute le doigt sur la touche. Le Big Bang avant le grand bug. Vous êtes là, êtes-vous là? Dans le jet de boxe en formica, dans mon harmonica rouillée, vous êtes là, beau disparu, archange arpentant la rue, Marie-Paul Vaillant, couturier. Êtes-vous là, vous êtes ici? Allez boire là-bas si j'y suis. Allons boire là-bas si l'on y est, et si les orages ont noyé vos whisky dans mon entrigue, l'aube remettra sa tournée. Conserve le vin à la louche, l'accordéoniste aveugle écoute le doigt sur la touche. Le Big Bang avant le grand bug. Conserve le vin à la louche et l'accordéoniste aveugle écoute le doigt sur la touche. Le Big Bang avant le grand bug. Il est l'heure où les chiens se couchent. Et l'accordéoniste, aveugle, écoute le doigt sur la touche. Le Big Bang avant le grand bug.
Radio Libertaire 89.4.
Un tatouage de marin. Oh, un truc. agriculteur, tous les jours je vais traire les vaches. Et 6 jours par semaine, je n'ai pas le cœur à la tâche. Ce que je voudrais, ce n'est pas pouvoir me lever tard. C'est qu'au lieu de donner du lait, mes vaches donnent du pinard. Je chante un peu partout, de l'Asie jusqu'en Amérique. Des gens me crient bravo, vive la France, c'est magnifique. Mon ami étranger m'a tout expliqué, c'est normal. Avec mon gros nez, ils me prennent pour le général.
Aïe, aïe.
Après 11 ans de tournée, de voyage et d'aventure, je suis allé chez mon cordonnier reprendre mes chaussures. Donné à réparer en 1957, il m'a dit je me souviens, repassez jeudi, elles seront prêtes. Moi j'aime bien le football et je connais tous les champions. Je passe tous mes dimanches devant la télévision. Je suis pour Ajaccio et ça sera vraiment magnifique. Le jour où les Corses gagneront les Jeux Olympiques.
Des frissons sur ta peau et des fourmis dans tes doigts qui me démangent ton dos. Des fois je pique ton phare quand tu as mon mal de mer. Tu attrapes mon cafard quand j'ai tes crises de nerfs. Je vais pas droit dans tes grolles, je dors dans tes insomnies. Je te coupe ma parole, tu ponds mes œufs dans ton nid. Je me terre dans ton silence quand je me sors par tes yeux. Cet amour n'a aucun sens, m'hérisse tes cheveux. Sable, j'ai ta chair de poule, respire-moi ton haleine. Bois ce vin que je m'en saoule, que je coule dans tes veines. Je garde ton araignée, ton grand vélo dans ma tête. Et des soirs je prends ton pied quand tu me cherches la petite bête.
C'était vraiment un employé modèle, Monsieur William. Toujours exact et toujours plein de zèle, Monsieur William. Il arriva jusqu'à la quarantaine, sans fredaine, sans le moindre petit drame,
mais un beau soir du mois d'août. Il faisait si bon, il faisait si doux, que Monsieur William s'en alla flâner droit devant lui au hasard, et voilà. Monsieur William, vous manquez de tenue, qu'alliez-vous faire dans la 13e avenue? Il rencontra une fille bien jeunette, Monsieur William. Il lui paya un bouquet de violettes, Monsieur William. Il l'entraîna à l'hôtel de la pègre, mais un nègre a voulu prendre la femme. Monsieur William, hors de lui, lui a donné des coups de parapluie. Oui, mais le nègre, dans le noir, lui a coupé le cou en deux coups de rasoir. Et William, vous manquez de tenue, mon vieux. Eh oui, qu'alliez-vous faire dans la 13e avenue? Il a senti que c'est irrémédiable, Monsieur William. Il entendit déjà crier le diable.
Monsieur William, allons!
Aux alentours, il n'y avait personne qu'un trombone chantant la peine des âmes, un aveugle en gémissant, sans le savoir, a marché dans le sang, puis dans la nuit a disparu. C'était peut-être le destin qui marchait dans les rues. Monsieur William, vous manquez de tenue, vous êtes mort dans la 13e avenue.
Thank you. Oh, where have you been, my darling young one? I've stumbled on the side of 12 misty mountains. I've walked and I've crawled on 6 crooked highways. I've stepped in the middle of 7 sad forests. I've been 10,000 miles in the mouth of a graveyard, and it's hard, and it's hard, and it's hard, and it's hard. It's a hard rain's are gonna fall. Young children, and it's hard, and it's hard, and it's hard, and it's hard. It's a hard rain's are gonna fall. What did you hear, my blue-eyed son? In blue eyes.